C'est Aurélie Kiefer pour le journal de 18h. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé et bonsoir à tous. Réparer le pays et engager une politique de transformation ambitieuse, c'est la promesse d'Édouard Philippe à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée. Nous entendrons le Premier ministre et nous analyserons ses annonces avec Sophie Delpont. Quelle rentrée pour les élèves en situation de handicap ? L'inclusion est une priorité, affirme le gouvernement. Mais les syndicats enseignants en doutent. Dossier suivi par Hakim Kasmi. Avec Eric Biegala, nous ferons le point sur le recul de l'organisation État islamique en Irak. Les djihadistes revendiquent un attentat meurtrier à Bagdad. Mais ils sont tout près de perdre leur bastion de Tal Afar dans le nord du pays. Enfin, nous irons aux États-Unis qui subissent toujours les effets de l'ouragan Harvey. L'état d'urgence est décrété en Louisiane. Après un été maussade, marqué par la baisse de la popularité du chef de l'État, Emmanuel Macron a reçu ce matin les membres du gouvernement à l'Élysée pour un séminaire de rentrée. À l'issue de la réunion, le Premier ministre s'est adressé à la presse pour présenter le calendrier des réformes à venir. Il a dévoilé un agenda plus qu'un plan d'action, pas de quoi faire remonter tout de suite la popularité du gouvernement. Mais Édouard Philippe a dit sa volonté de commencer à réparer le pays et il a promis d'assumer des choix budgétaires clairs. Édouard Philippe.
Ce sera un budget de transformation qui reflétera des choix forts. Chacun connaît ici l'expression selon laquelle gouverner, c'est choisir. Eh bien, gouverner et préparer un budget, c'est choisir. Et choisir, c'est parfois difficile. Mais nous sommes absolument pénétrés de l'idée que si choisir, c'est difficile, ne jamais choisir, c'est toujours dangereux. Et nous voulons donc assumer des choix clairs. Le choix de baisser les impôts, massivement. Le choix de baisser le poids de la dépense publique et de casser le cercle vicieux de la dette. Et le choix de financer les priorités des Français, la défense, la sécurité, la justice, l'école, l'enseignement supérieur, la transition écologique, la solidarité et le handicap. Si nous voulons mettre en œuvre des politiques publiques complètes qui permettent de transformer le pays, qui permettent de réparer le pays, nous devons évidemment les décliner dans des choix budgétaires et ils seront présentés aux Français et évidemment au Parlement à partir du 27 septembre prochain.
Édouard Philippe affirme s'appuyer sur deux piliers. Il veut à la fois libérer et protéger. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Ce séminaire avait surtout pour vocation d'afficher la cohésion du gouvernement et de partir sur de nouvelles bases.
Et le Premier ministre a voulu reprendre la main et replacer l'action du gouvernement dans la continuité des promesses de campagne. Afficher sérieux et détermination pour remettre de la cohérence, rééquilibrer le fameux concept du « en même temps macroniste », libérer et en même temps protéger. Car l'objectif, c'est de contrer l'image de président des riches brandi par l'opposition après l'annonce de la baisse de l'impôt sur la fortune au moment de la baisse des APL. Édouard Philippe promet des mesures pour lutter contre la crise du logement, une hausse du minimum vieillesse, mais aussi un grand plan étudiant. Les précisions viendront plus tard. Le chef du gouvernement a souhaité montrer qu'il y a un plan d'action clair, méthodique, après les errements, notamment sur le procédé d'exonération de la taxe foncière, la taxe d'habitation. Les services de Matignon avaient dû rattraper l'erreur du Premier ministre après une annonce en direct jeudi dernier. Le gouvernement donc présentera les ordonnances modifiant le code du travail jeudi prochain avant leur examen au Conseil des ministres le 22 septembre. Alors que l'opposition incarnée par la France insoumise notamment accuse Emmanuel Macron de mener un coup d'État antidémocratique avec ses ordonnances, Édouard Philippe ironise sur ces attaques portées par Jean-Luc Mélenchon, issues selon lui d'un romantisme échevelé. Le Premier ministre se moquant d'un recours à la caricature sur des estrades selon ses mots. La France insoumise promet de son côté une rentrée sociale explosive.
Emmanuel Macron a appelé ce matin les ministres à ne jamais céder aux Cassandres qui prédisent le pire et à agir avec détermination. Le président montre qu'il est lui-même pleinement au travail avec une réunion internationale cet après-midi sur le thème de la crise migratoire. Les chefs de gouvernement italiens, espagnols et allemands y participent aux côtés des dirigeants tchadiens, nigériens et libyens. On retrouve Bertrand Galichet à l'Élysée.
L'idée de la France de créer des hotspots en Libye, au Niger et au Tchad pour les candidats à l'asile avait été accueillie avec beaucoup de scepticisme au début de l'été. Y associer les pays africains et européens les plus directement concernés apparaît désormais comme la seule méthode pour enrayer les flux migratoires vers l'Europe et leur cortège de drames humains. Cet après-midi, Emmanuel Macron a donc rencontré les dirigeants tchadiens, nigériens et libyens, mais aussi italiens et espagnols, ainsi que la chancelière allemande. Ce projet de centre d'examen des demandes d'asile en amont des traversées à haut risque sur la Méditerranée reste controversée. L'instabilité de la Libye, déchirée entre deux pouvoirs et largement livrée à l'anarchie, complique la réalisation des hotspots souhaités par la France. L'Europe n'entend pas se substituer aux États africains d'où partent les migrants, mais les aider à sécuriser leurs frontières avec la Libye et à lutter contre les passeurs. Une délégation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été envoyée début août au Tchad et au Niger. Plusieurs pays africains disent être favorables à une aide européenne pour contrôler les flux migratoires, à condition que leur souveraineté soit préservée.
Les élèves en situation de handicap pourront-ils faire leur rentrée dans de bonnes conditions? En théorie, oui. Lorsqu'il était candidat, Emmanuel Macron avait souligné l'importance de l'inclusion scolaire. Et la nouvelle secrétaire d'État en charge du handicap est justement très en pointe sur ces questions. Mais les moyens seront-ils au rendez-vous au sein de l'éducation nationale? La suppression annoncée d'emplois aidés, qui représente 23 000 postes, aura-t-elle un impact sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap? Bonjour Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Une grande partie de ces emplois aidés sont en fait des postes d'auxiliaires de vie scolaire, et le SNUIPP, syndicat du primaire, estime que 2000 postes seraient menacés.
Oui, l'inquiétude est importante chez les parents d'élèves comme chez les enseignants, car les contrats aidés représentent les deux tiers des auxiliaires de vie scolaire, soit près de 50 000 personnes, ce qui ne sera pas sans conséquence dans les classes, notamment aux primaires, comme nous l'explique Francette Bobineau, secrétaire générale du SNUIPP.
C'est très inquiétant, d'autant que ça peut être très silencieux parce que ce sera au moment de la fin des contrats, au moment où les contrats vont s'arrêter, qu'il n'y aura pas nécessairement de renouvellement. Or, les contrats peuvent s'arrêter en octobre, en novembre, en janvier. Donc, nous allons avoir comme ça, en pointillé, un certain nombre de situations. C'est très grave et très inquiétant pour les enfants concernés. À cette rentrée, nous allons avoir encore de nouveaux enfants en situation de handicap qui vont venir à l'école et c'est une excellente chose. Mais il faut qu'ils y soient aidés pour que cette école leur permette de réussir. C'est important de réussir l'inclusion. Ce n'est pas important de faire des chiffres, c'est important de faire du qualitatif.
Du côté des associations comme l'APF, l'Association des paralysés de France, on se veut rassurant, mais on reste méfiant. Le ministère indique, lui, qu'il préservera le plus possible les postes d'auxiliaires de vie scolaire, ce qui ne rassure pas complètement Bénédicte Kyle, conseillère éducation à l'APF, car même si les postes de l'AVS sont préservés, eh bien il y aura beaucoup de suppressions, notamment chez les surveillants au collège, qui sont très souvent des contrats aidés, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la scolarité des élèves en situation de handicap au collège.
Pour des élèves en situation de handicap, le collège, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, moins de surveillants, ça va jouer sur un climat scolaire. En termes d'élèves, des élèves brimés, dans le projet de loi de finances, on trouve aussi ces chiffres-là. Il y a 27% des élèves, donc toujours un élève de 3e, qui se disent avoir été brimés au cours des deux derniers mois. Ils sont 34,7% quand ils sont en situation de handicap.
Alors du côté du ministère de l'Éducation nationale, on explique que 8000 nouveaux postes d'AVS seront créés à la rentrée, sauf qu'en vérité ce ne sont pas des nouveaux postes, mais des précaires qui seront CDIsés. Quant à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap, elle vient d'indiquer à l'instant chez nos confrères de France Info que les postes d'AVS seront sanctuarisés à faire à suivre.
Hakim Kasmi, les cantines des écoles de Chalon-sur-Saône vont à nouveau proposer des menus sans porc. Ces menus de substitution avaient été supprimés par la municipalité en 2015. Le tribunal administratif de Dijon vient de lui donner tort. Pour le tribunal, cette décision n'avait pas accordé, au sens de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, une attention primordiale à l'intérêt des enfants. Mais la ville de Chalon va faire appel, Nathanaël Charbonnier.
Le maire de la ville, Gilles Platret, voulait en faire un combat pour la laïcité. Pour lui, l'école laïque doit traiter tout le monde de la même façon et ne doit pas s'attacher à faire des distinctions, conséquences, un seul menu pour tous. Mais voilà, le tribunal, lui, ne voit pas les choses de la même façon. La laïcité, pourquoi pas, mais à condition que l'intérêt de l'enfant soit privilégié en premier, et visiblement l'intérêt de l'enfant, c'est de pouvoir manger le midi. Le juge explique qu'il n'est pas question pour lui de s'impliquer dans un quelconque débat politique, mais juste de s'intéresser aux enfants de Chalon, qui, comme tous les enfants de France, doivent avoir le choix, comme c'était le cas d'ailleurs depuis de nombreuses années avant que la municipalité ne change les règles. Du côté de la Ligue de défense judiciaire des musulmans qui avait porté l'affaire en justice, on analyse le jugement de façon plus générale, comme l'explique son avocat, maître Nicolas Gardère.
Cette décision, elle a été rendue au fond. Donc elle constitue le nouvel état du droit d'ici à ce qu'une cour administrative d'appel se prononce. Le juge a eu peut-être un peu peur de son audace. On voit bien que le communiqué de presse, même la décision, il prend des certaines précautions rédactionnelles pour essayer de limiter un peu l'impact aux circonstances locales de Châlons. Pour autant, ces circonstances locales, on les connaît. Elles sont les mêmes partout en France. Donc, le fonder sur l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un fondement qui est intéressant. Donc, convention internationale de l'ONU, convention de New York, il confirme l'universalité de la problématique. Et partout en France, on se posera la question, l'intérêt supérieur de l'enfant pourrait être invoqué. On a une décision qui a une portée tout à fait nationale.
Enfin, il faut savoir que la décision est applicable dès la rentrée. En effet, l'appel que la ville devrait déposer n'est pas suspensif. Décision inapplicable en aussi peu de temps, répond la mairie dans un communiqué.
Une nouvelle étude de l'INSEE souligne les évolutions de nos modes de vie. Les ménages français sont de plus en plus petits. En moyenne, 2,2 personnes partagent le même logement. Les ménages sont composés pour un tiers seulement de 3 personnes ou plus. Et un ménage sur 3 est en fait une personne seule. David Ravier, vous avez lu cette étude. Qu'est-ce qu'elle nous apprend de la société française?
L'étude de l'INSEE nous montre de manière détaillée l'évolution de nos schémas familiaux. Dans les années 60, soit au début de l'étude, un ménage classique représentait un couple avec plusieurs enfants. Depuis, les évolutions de la société ont transformé ce schéma qui ne tient plus vraiment, puisque la tendance actuelle est de faire peu d'enfants et de se séparer beaucoup plus souvent qu'avant, à tel point que les ménages constitués d'une seule personne sont même devenus le modèle dominant en France au cours des 15 dernières années. Cet accroissement de personnes seules dans notre société peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord parce que l'émancipation des femmes s'est amplifiée par rapport aux années 60. En 2013, 10 millions de personnes vivaient seules en France et 57% d'entre elles étaient des femmes. D'un côté, ce sont des jeunes femmes qui partent rapidement du foyer familial pour prendre leur indépendance. Et de l'autre, ce sont des femmes âgées, la plupart du temps veuves ou divorcées, qui peinent à retrouver quelqu'un. Mais cette transformation s'explique aussi par la redéfinition du couple au sein de nos sociétés. Les chiffres proposés par l'INSEE commencent en 1962, à une époque où les couples se formaient tôt et où les divorces n'étaient pas aussi courants et bien acceptés que maintenant. On est donc bien loin des 123 000 divorces répertoriés en France en 2015. Et ce sont d'ailleurs ces désévolutions majeures dans notre société, dans notre schéma familial, qui expliquent en partie l'autre forme la plus courante en France, à savoir les ménages constitués de seulement 2 personnes. Ils sont soit le fruit d'un couple sans enfant, soit le résultat d'un parent séparé de son conjoint qui éduque seul sa progéniture.
Merci David Ravier. C'était un procès emblématique de la crise financière mondiale, accusé d'avoir escroqué une centaine d'épargnants français, dont le chanteur Enrico Macias. La filiale d'une banque islandaise, Landsbank Luxembourg, est relaxée. Le tribunal correctionnel de Paris estime en effet qu'il n'y a pas de preuve de manœuvre frauduleuse. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut parler d'une surprise?
Ben oui, dans la mesure où ce jugement rendu par le tribunal correctionnel efface l'accusation d'escroquerie qui pesait sur la banque Landsbank et les années d'instruction conduites par le juge Renaud van Ruymbeek. Petit retour en arrière pour mieux comprendre l'affaire. En 2007, la crise financière mondiale se profile, mais la banque met en avant son triple A pour proposer un montage financier à quelques 110 épargnants, parmi eux Enrico Macias, qui emprunte 35 millions d'euros pour rénover sa maison de Saint-Tropez. Un crédit versé en partie en liquide, le reste devant assurer le rendement et le tout garanti par l'hypothèque du bien immobilier. Un an plus tard, le gouvernement islandais décide de nationaliser les 3 principales banques du pays. Sa filiale luxembourgeoise est alors placée en liquidation judiciaire et les emprunteurs se voient réclamer un remboursement intégral alors qu'ils n'ont touché qu'une partie des fonds. D'où la plainte déposée par le chanteur et d'autres épargnants d'ailleurs moins fortunés. À l'audience, leurs avocats avaient accusé Landsbank d'avoir utilisé la crise financière comme un écran de fumée pour dissimuler ses pratiques trompeuses. Le procureur avait requis des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes à l'encontre des dirigeants, mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de les poursuivre, pointant de nombreuses lacunes dans l'enquête et estimant qu'il ne s'agissait pas d'une dissimulation volontaire, mais des aléas de la vie économique. Le tribunal qui ordonne aussi la restitution des créances. En clair, les liquidateurs de la banque sont autorisés à vendre si besoin les biens hypothéqués, dont la luxueuse villa de Saint-Tropez d'Enrico Macias, qui a, cela dit, comme le parquet et les autres plaignants, 10 jours pour faire appel.
Florence Turm. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, salue une grande figure du cinéma français, une femme de courage et d'engagement. L'actrice et réalisatrice Mireille Darc s'était la nuit dernière à 79 ans. Elle avait tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma. On pense à La Grande Sauterelle ou aux Barbouzes de Georges Lautner. On se souvient aussi de sa robe noire, Guy Laroche, très dénudée dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, comédie d'Yves Robert. L'actrice blonde a parfois été comparée à Marilyn Monroe et à Brigitte Bardot, mais elle s'en sentait très éloignée. Écoutez Mireille Darc en 2012 au micro de Philippe Vandel.
Pour moi, une femme libre, c'est une femme qui décide de sa vie, qui est responsable et qui s'assume.
Je vais vous dire ce qui m'a frappé. On disait que le symbole de la liberté, c'était Brigitte Bardot. Et vous écrivez ceci sur elle. Brigitte est une femme objet. Moi, je revendique une liberté totale. Je suis dans la liberté des mots et de la vie. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Mais quand vous voyez les films de Brigitte, c'est une femme objet. Regardez « Et Dieu créa la femme », c'est un objet de désir. Moi, pas du tout. Moi, je ne suis pas arrivée de la même manière. Je suis arrivée en disant « Je revendique le droit au choix ». Ce n'est pas les hommes qui me choisissent, c'est moi qui les choisis. J'ai droit au plaisir, comme les hommes. Je peux m'en aller quand je veux et faire ce que je veux.
Mireille Darc, à l'occasion de la parution de son livre « Une femme libre » aux éditions Flammarion. Michel Barnier se dit préoccupé juste avant de recevoir David Davis, le ministre britannique du Brexit. Le représentant de la Commission européenne appelle Londres à négocier sérieusement pour que les pourparlers sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne puissent enfin avancer. Les deux hommes sont censés discuter jusqu'à jeudi et ils doivent commencer par parler des sujets qui fâchent, notamment la facture que l'Europe réclame aux Britanniques. Les précisions d'Antoine Gignot à Londres.
Nous avons travaillé dur, nous sommes prêts de nouveau à retrousser nos manches. Ce sont les mots conciliants de David Davis, le ministre du Brexit, qui espère en échange un peu de souplesse. Pas sûr que cela suffise à infléchir la position de Michel Barnier. Avant d'aborder les éventuels futurs accords commerciaux, le négociateur en chef de l'Union européenne veut surtout parler de la facture que les Britanniques vont devoir payer pour financer les projets dans lesquels ils sont engagés. La somme pourrait tourner autour de 100 milliards d'euros, inconcevable pour Londres, qui pour l'instant refuse de payer plus de 45 milliards. Au programme également la question des droits des expatriés et surtout le statut de l'Irlande du Nord. Pour ne pas mettre en péril le processus de paix, le gouvernement britannique voudrait éviter d'avoir à rétablir les postes de douane, éviter de recréer une frontière physique qui diviserait l'île. David Davis demande donc à Bruxelles d'accepter que les petits entrepreneurs, les agriculteurs, ne soient soumis à aucun contrôle sanitaire ou douanier. La question essentielle, car cette frontière fantôme ouvrirait de fait une brèche par laquelle les Britanniques pourraient exporter des produits vers le marché unique européen, tout en ayant cessé d'en faire partie.
Un nouvel attentat revendiqué par le groupe État islamique a fait 11 morts aujourd'hui sur un marché de Bagdad. De nombreux magasins ont été soufflés par l'explosion. Malgré cette attaque spectaculaire, les djihadistes sont en très grande difficulté en Irak, cernés de toutes parts. Éric Bigala, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
L'organisation semble à bout de souffle et elle est en passe de perdre son bastion de Tal Afar dans le nord du pays.
Oui, en fait Aurélie, la ville de Tal Afar peut être considérée comme reprise par l'armée irakienne et la bataille aura été courte, hein, à peine une grosse semaine de combat pour reprendre à l'État islamique cette localité, 200 000 habitants avant-guerre. La dernière ville importante tenue par les djihadistes dans la province de Ninive à quelques 60 km à l'ouest de Mossoul. Alors on disait Tal Afar défendu par 1500 à 2000 djihadistes et encore occupé par quelques 10 à 20 000 civils. À vrai dire, les forces irakiennes disent n'avoir pas vu le moindre civil, ni vivant ni mort. Quant au décompte des pertes des djihadistes, ils ne dépasseraient pas les 260 corps retrouvés, selon un officier supérieur de l'armée irakienne présent sur place ce week-end. C'est sans doute cette absence de civils qui a permis à l'armée irakienne de progresser si vite et surtout d'utiliser d'importants moyens d'appui, bombardements aériens ou barrages d'artillerie. Les djihadistes n'ont pu lancer que très peu de leurs voitures explosives, leur arme principale, celle qui avait fait des ravages parmi les soldats irakiens durant les 9 mois de la bataille de Mossoul. Durant le week-end, les derniers combattants du califat semblent avoir tout simplement décroché de Tal Afar s'enfuyant dans le désert, au nord et à l'ouest de la ville, essayant sans doute de rejoindre la Syrie. La frontière n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres. La Syrie et la vallée de l'Euphrate, où le califat dispose encore de ses dernières bases. Ce matin, des combats se poursuivaient dans le désert, à une vingtaine de kilomètres de Tal Afar. Mais les djihadistes n'ont que peu de chances de parvenir en Syrie. Avant d'atteindre la frontière, il y a toute une zone occupée et assez fortement tenue par les Kurdes. Il y a 3 heures, la chaîne kurde Rudaw annonçait d'ailleurs dans ce secteur la mort au combat de 5 djihadistes et l'arrestation d'une douzaine d'autres combattants par les Peshmerga.
Éric Biegala, les inondations menacent de s'aggraver à Houston, au Texas. L'Agence fédérale américaine des situations d'urgence s'attend à devoir abriter 30 000 personnes victimes de la tempête tropicale Harvey dans des centres d'accueil temporaires. Des milliers de secouristes parcourent la ville pour tenter d'exfiltrer les personnes les plus vulnérables, mais de très nombreux habitants sont encore coupés du monde. C'est le cas dans le quartier où se trouve notre envoyé spécial Philippe Randet. Écoutez son reportage.
Je me demande comment mon cœur peut supporter ça. À bout de nerfs, Chanel observe la route devant elle, une route transformée en rivière avec plus de 60 cm d'eau. Elle a quitté ses enfants vendredi matin pour aller travailler. Depuis, elle passe de longues heures au téléphone avec sa mère qui s'occupe d'eux.
We're just waiting it out.
On attend de partir et le pire, c'est que les inondations ne sont pas au maximum. Il va encore tomber des dizaines de centimètres. Je suis effrayé, désemparé. Comment peut-on fuir? Je ne sais pas quel sera mon futur, quelle sera la prochaine étape. Et Chanel le dit en pleurant, en 2005, lors de Katrina, elle était à la Nouvelle-Orléans. J'ai été évacuée ici pendant l'ouragan Katrina, et là je me retrouve avec la pire tempête de l'histoire de Houston. Je ressens les mêmes peurs que pendant Katrina, où c'était vraiment horrible, et là encore une fois, je suis dans un endroit qui n'est pas sûr. Il y a plusieurs abris dans Houston, ils sont inaccessibles. Je ne sais pas où ils sont situés, personne n'est venu ici nous aider, nous n'avons aucun numéro de téléphone pour joindre les équipes de secours. Et Chanel de conclure, hier j'ai essayé de marcher 100 mètres, j'avais de l'eau au-dessus de la taille, j'ai failli me faire emporter par le courant.
Philippe Rendet, lui-même bloqué à Houston au Texas, et l'état d'urgence a également été proclamé en Louisiane. Un aperçu du temps qu'il fera chez nous demain, le ciel sera voilé à l'ouest, très ensoleillé à l'est, il fera encore chaud, 22 à 35 degrés l'après-midi, avec même des pointes à 38 dans le centre. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.